Mais je vous rappelle quand même une chose. Foutez la merde rien que d'un poil, et je vous affecte sur un avion de fret pour nous ramener des crottes de chiens made in Hong Kong.
À vos ordres.
Et voilà, ça c'est Top Gun. Alors c'est pas du surfin hein, au niveau des dialogues, c'est pas du ronsard. Mais quelle énergie, quelle patate, on va vous parler dans cette vidéo de Top Gun.
On a remanié le scénar ?
Zéro. Le problème est cérébral, alors au boulot.
Et vous atteindrez le statut d'icône.
Alors peut-être pour nous présenter brièvement, Cédric ?
Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Cédric Salmon, je suis script doctor chez iConcept. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour, bah moi de même, consultant chez iConcept, et plus sur la partie narration interactive. Et aujourd'hui, on fait une émission sur un format un peu spécial, ça s'appelle Analyse 1, 2, 3. On va analyser en fait un film. Alors, on vous a choisi un bon film, évidemment, enfin en tout cas un film dont on estime que le scénario est quand même valable. On fera aussi des émissions, des vidéos sur des films où là, par contre, on n'est pas aussi enthousiaste sur le scénario, plus dans un but évidemment d'amélioration. Mais là, le but un peu de la manœuvre, c'est d'analyser un film. Et on part sur Top Gun. Alors la vidéo, elle est enregistrée début d'année, sachant que le film est annoncé pour juillet. Donc je pense que de manière un peu opportune, on vous sortira la vidéo un peu avant Top Gun 2. Voilà, mais en tout cas, on va vous parler de Top Gun. Voilà. Alors on peut peut-être faire un petit rappel sur façon un peu synoptique de voir la structure d'un film et comment est-ce qu'on peut retrouver ça ensuite dans la bande-annonce.
Oui, alors... Bon, déjà, effectivement, Top Gun, c'est quoi qu'on pense du scénario, puisqu'on verra qu'il y a pas mal de choses à dire, hein, et c'est pas loin de là un film parfait. C'est évidemment un grand succès. Et si on veut analyser très rapidement un scénario et avoir des vrais leviers, des clés de lecture, ce dont on a besoin quand on est script doctor, eh bien, on peut employer cette grille qui est notre grille d'analyse chez iConcept. Donc ces trois fonctions dramatiques, ces trois moments forts d'une fiction qui vont déjà être intéressants à analyser. Donc la première partie d'une fiction, c'est le déclencheur, hein, ce qui va lancer l'histoire, l'accroche d'une histoire, ce qu'on vient pitcher, raconter en premier quand on raconte une histoire. Évidemment que ça figure normalement en bonne place dans un film annonce, puisque une bande annonce ou un film annonce, comme on dit dans la profession, est là pour nous donner envie de regarder le film et donc de nous projeter immédiatement comme un avion de chasse est catapulté en dehors du porte-avions. On vient catapulter la narration avec ce déclencheur. Donc, a priori, cette fonction dramatique-là, et on verra comment elle fonctionne, va figurer dans la bande-annonce d'un film. Et puis, la seconde fonction dramatique s'appelle la tâche, avec un accent circonflexe, hein, s'il vous plaît, même s'il y a des tâches dans certains scénars. Là, il s'agit en fait de tout simplement, concrètement, analyser ce que va faire le personnage. Ça va être un indicateur très important sur le genre du récit. Et la bande-annonce, là aussi, à grand renfort, de montage clippé, va nous illustrer les grandes actions symboliques et fortes et puissantes du personnage, et donc ça va nous permettre d'analyser un petit peu la structure. Et évidemment, la troisième fonction, bon, je vous fais pas l'affront de vous l'expliquer, c'est la fonction dramatique la plus connue en scénario, le climax. On pourra en discuter sur Top Gun. Donc voilà, donc a priori, le 1 et le 2, le déclencheur et la tâche, devraient nous être expliqués dans le film annonce.
Alors c'est un film annonce qui date de 1987, donc il est d'un an postérieur à la sortie du film. Donc c'est une bande annonce française, j'imagine au moment où le film passe en cassette, un truc dans le genre. Mais on va dire, on a a priori les éléments dont tu viens de parler, Cédric. Et puis on va parler ensuite dans la suite de la discussion, on l'a évidemment pas dans la bande annonce, mais on va en parler ensuite. On a le climax, donc j'avertis tout de suite, on va divulgâcher, hein, comme disent nos amis québécois. Donc le mieux c'est de voir le film avant, mais en tout cas on va se regarder ensemble la bande annonce. C'est parti.
Top Gun, la cassette top de l'année 87. Déjà plus de 3 millions de cassettes vidéo vendues dans le monde. Un film supersonique, le meilleur parmi les meilleurs.
Qu'est-ce qui vous motive ?
J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de la navale.
Tu veux savoir qui est le meilleur ici ? C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du sang-froid et jamais d'erreur.
Vous êtes obligé d'être mieux et un cran au-dessus des autres.
Je m'appelle Maverick.
Maverick ? C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet.
J'ai reçu un ordre vous concernant et je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés pour entrer à Top Gun.
Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Une élite. Vous deviendrez encore mieux.
t'as pas encore saisi.
Saisi quoi?
Qui est le meilleur pilote?
Moi, dans cette école, je suis instructeur et tous les deux mois, je vois une vingtaine de nouveaux furieux.
Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable.
C'est vrai.
Et même très dangereux. Il a rien contre le pilote. Mais contre son attitude.
Vous savez, moi, quand un truc me branche, je le branche.
Il ne suffit pas d'être un fougueux pilote.
J'ai une famille, moi, je peux pas me permettre de tout foutre en l'air.
Et toi, tu es ma seule famille.
Jamais je ne te ferai ça le coup.
À Top Gun, on va vous apprendre le combat.
Encore 10 secondes et c'est bon.
Ici, pas de points pour les secondes places.
Égyptien,
ce que tu fais en mission, c'est très dangereux. Crois-moi, il faut que tu t'accroches.
Iceman, à vos ordres. Hollywood,
à vos ordres.
Secteur 2, vous, Maverick, vous les mettez en réserve avec Merlin en alerte.
À vos ordres.
Les MiG sont dans le secteur et la situation est tendue. S'il y a hostilité à votre égard, vous ouvrez le feu. Messieurs, vous voilà dans le bain.
J'en ai un qui vient à gauche.
C'est pour ça qu'on vous a formé.
Trois MiG face à face, plus bas, gauche, gauche.
Vous êtes les as de l'Amérique.
Un MiG à 12 heures en haut, un MiG à 12 heures en haut.
Gonflez-nous d'orgueil.
Vous allez accrocher, radar.
Autorisation de tir.
C'est bien accroché.
Feu.
Je shoot.
Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun.
Et voilà pour la bande-annonce bien vitaminée. Donc on a deux scénaristes crédités. C'est bien ça, Cédric?
Oui, ouais. Effectivement, Jim Cash et Jack Epps Jr. Pour la petite histoire, l'un a été l'élève de l'autre, l'élève dans un cours de dramaturgie de l'autre, et puis ils ont collaboré ensemble. On raconte que l'un ayant déménagé, ils étaient à l'autre bout, l'un et l'autre du pays, donc ils ont travaillé et coécrit sans s'être beaucoup vus, en fait, hein, physiquement. Ils faisaient tout par téléphone. Effectivement, ce film est un très gros succès, un des plus gros succès du box-office. Et ça a marqué toute une génération. Donc on va essayer d'analyser un peu concrètement la structure de ce scénario et de comprendre vraiment à quoi on a affaire.
Alors d'après ce qu'on a vu dans la bande-annonce, mais même aussi évidemment d'après la connaissance du film, est-ce qu'il y a déjà un genre assez évident auquel se raccroche le film?
On voit que le marketing qui est fait autour du film nous vend de l'action. Hein. Si vous regardez un peu où est classé, dans quelle catégorie est classé Top Gun dans les vidéothèques, on est dans le film d'action. Maintenant, est-ce que c'est véritablement le cas? On va voir ça ensemble. Dans quel genre, toi, tu la collerais au film?
Spontanément, j'ai envie de dire action, parce que c'est ce qui paraît le plus évident. On a une dimension, on a un héros avec des compétences martiales, c'est quand même un guerrier à la base. Il va se confronter au danger, il va en revenir transformé ou grandi. Donc spontanément, on a un peu envie de parier sur le genre action, même si on voit bien qu'il y a il va compter Florette, il y a une amourette dans les parages. Est-ce qu'il y a peut-être un sous-genre caché quelque part? Ça, c'est pas impossible. Voilà. Et on précise qu'on parle bien du genre dramatique et pas du genre apparent, évidemment.
C'est ça. Donc, on va essayer un peu d'analyser comment est structuré ce film, voir ses forces et ses faiblesses au niveau du scénario. C'est a priori un film d'action, mais il y a un piège. Si on va détailler ensemble la structure, le déclencheur, la tâche, et puis on verra le climax. Mais vous voyez déjà immédiatement dans le film annonce qu'il n'y a pas beaucoup de méchants dans ce film annonce. C'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire d'un jeune pilote qui va rentrer dans une école qui vient en fait être présentée un peu comme plutôt une sorte de grand concours pour sélectionner qui va être le meilleur pilote de l'armée. De l'armée de l'air américaine. Tous ces gens s'entraînent pour être au top niveau en pleine guerre froide. Et il y a évidemment un compétiteur hors pair face à notre Maverick qui s'appelle Iceman, joué par Val Kilmer. Et a priori, c'est un peu faible pour faire un film d'action. Il n'y a pas réellement de méchants. Et puis on voit pointer quelques MiG, donc les méchants russes absolument un peu fourre-tout. C'est-à-dire, il y a aucune caractérisation, ils ont un casque.
Ils sont pas personnalisés.
C'est ça, ouais, et ouais. Ils sont absents de la structure. Ils sont au début et à la fin, mais on va voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Ouais. C'est-à-dire, on est quand même en train de partir sur des bases d'un film d'action qui n'aurait pas de méchant. Ouais. Donc là, il y a quelque chose de qui mérite
une forme d'anomalie. En tout cas, ça mérite éclaircissement.
Voilà.
Ouais, super.
C'est
bon,
parti.
On se lance. On se lance sur le déclencheur. Bon, j'ai pris cette image un peu iconique du film. Il y a des relations diplomatiques entre les gentils américains et le méchant de l'époque, à savoir les soviétiques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le déclencheur?
Donc l'événement qui lance le film, c'est tout simplement lors d'une interception d'un aéronef près de la flotte américaine. Donc il y a deux MiG, il s'avère qu'il y en a deux, au début il pense qu'il n'y en a qu'un, des avions russes qui s'approchent à 300 ou 400 km du porte-avions. Donc on en voit, c'est la procédure des avions de chasse pour les intercepter. Et le déclencheur est le suivant, le pilote le plus performant de cette flotte, dont j'ai oublié l'indicatif, ouais, Cougar.
C'est Cougar.
Eh bien, va être confronté, lors de cette interception, il va être confronté à sa propre mort et l'un des chasseurs ennemis va l'accrocher radar, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va, il va lui laisser entendre qu'il peut l'abattre en déclenchant une alerte radar. Et Cougar, tout pilote qu'il est, il va perdre son sang-froid. Et on a une très belle scène d'ouverture qui est vraiment, pour le coup, très bien écrite, où on a un pilote qui va perdre son sang-froid et ne va plus être capable de ramener son avion. Donc l'image qu'on voit, c'est que, dans le déclencheur, Maverick est donc le pilote numéro 2, enfin l'avion qui suit ce leader. Et il vient faire une manœuvre, puisqu'il n'a pas le droit d'abattre ses MiG, hein, c'est juste tout simplement une procédure pour dire aux MiG, pour accompagner les MiG en dehors de la zone, eh bien, puisqu'il n'a pas le droit de les abattre, il ne se laisse pas impressionner lui, et il va faire une manœuvre extrêmement dangereuse. Voilà, donc évidemment une manœuvre qui n'est pas, je crois, très crédible pour les pilotes. Cette scène a été réalisée, bon, ça c'est évidemment un effet spécial, hein. Ils ont effectivement fait voler un avion sur le dos, mais ils étaient quand même assez éloignés, les deux avions. Enfin, en tout cas, cette scène est mythique. Donc, eh bien, il va voler sur le dos pour faire un doigt d'honneur au pilote de MiG et voilà, le chasser. Et au moment donc de ramener son avion, enfin de rentrer à la base, eh bien, il s'aperçoit que son leader, lui, fait une crise d'angoisse et ne peut plus ramener son avion. Et à l'issue de ce problème, lui donc va faire quelque chose qui est absolument interdit, c'est-à-dire qu'au moment où il vient apponter son propre... c'est un F-16, qu'est-ce qu'il pilote ?
C'est un F-14.
Un F-14, un Tomcat. Au moment où il vient apponter son Tomcat, il se rend compte que son leader n'est pas là, il reste en l'air, ils n'ont plus de fuel, et il repart, il remet les gaz, il repart en désobéissant totalement à sa hiérarchie pour aller chercher son coéquipier, voler aile dans l'aile avec lui, et il y a un grand moment de tension pour savoir si ce Cougar va être capable de reposer son avion, sachant qu'évidemment c'est extrêmement compliqué l'appontage. Il y a des études qui ont été faites au moment de la guerre du Vietnam sur le niveau de stress ressenti par les soldats, et apparemment les pilotes disaient qu'ils ressentaient moins de stress à se faire tirer dessus que à apponter, pour vous dire que ça peut être perçu, en tout cas, par les pilotes comme quelque chose d'assez difficile. Et bon, voilà. Et fondamentalement, le déclencheur est le suivant. Cougar arrive à rentrer à la base, mais il abandonne son métier. Il ne veut plus être pilote. Il a été traumatisé par cet événement. Et voilà, ça propulse Maverick et son copilote comme numéro un de fait de cette escadrille, je sais pas comment on dit, de cette unité. Et donc, c'est lui qui va aller dans cette école Top Gun, se confronter à la coupe, enfin pour essayer d'obtenir la coupe du meilleur pilote de l'armée de l'air américaine. Voilà le déclencheur.
La Navy, je crois, pour être précis.
Pardon, la Navy.
C'est du détail.
les youtubeurs spécialisés dans l'aviation me
pardonneront. Exactement.
Mais ouais, mille excuses.
Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit quand même totalement la stratégie d'identification au héros, de valorisation, qui là pour le coup est super clair. Quoi.
Alors là, c'est ça qui est intéressant. Là, on a véritablement un déclencheur typique du film d'action. On a un héros qui vient, alors qui effectivement a des compétences réelles, martiales, qui vient tout simplement déployer une compétence qui est typique du film d'action, qui est, on va dire, une vertu de force au sens la capacité d'appréhender la mort et de raisonner face à la mort. C'est ce qu'on apprécie chez les pilotes. Le danger de mort ne les tétanise pas. Ils sont capables de raisonner et de mettre en place des procédures, de réfléchir. Et c'est ce qu'il fait. Et donc, il vient vraiment se comporter en héros, en indépendance. Ça, c'est typique du film d'action américain. Il désobéit sa hiérarchie pour véritablement aller aider un collègue. On ne laisse personne derrière. Et cette scène est vraiment très puissante. Mais on remarque par contre que ce déclencheur arme un objectif qui va nous donner un indice sur le genre, puisque si on regarde quel est l'objectif du héros, c'est d'obtenir la coupe Top Gun. D'ailleurs, c'est ce qui figure dans le film annonce qu'on vient de voir. Je veux être le meilleur. Vous voulez la coupe? Oui, je veux la coupe. C'est un objectif réussi qui n'a absolument aucun enjeu. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on est dans un sous-genre du film d'action qui s'appelle le film de sport. C'est-à-dire que Top Gun, c'est avant tout un film de sport, ce qui va d'ailleurs peut-être expliquer les images qu'on a en tête, puisque si je vous dis Top Gun, vous pensez huile badigeonnée sur des corps qui jouent au volleyball. C'est-à-dire que il y a des images qui sont absolument hallucinantes, où ils passent leur temps à faire du sport, de la compète. Et donc en fait, vous voyez que fondamentalement, on raconte l'histoire d'un type qui veut devenir le meilleur pilote face dans une compétition un peu improbable. Et donc, on est sur quelque chose qui est un peu particulier, puisque le film de sport, c'est un film d'action, mais le danger de mort est remplacé par une mort sociale. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est structurellement intéressant. Donc on part sur, a priori, un film de sport, puisque je vous rappelle quand même qu'on est en temps de paix. Hein. Les MiG n'ont pas tiré, et il n'y a absolument pas de guerre hein, entre la Russie et
l'enjeu,
les États-Unis.
Et l'enjeu, c'est ce qu'on a vu dans l'extrait au début, c'est finir pilote qui ramène des crottes d'Hong Kong.
C'est-à-dire que...
Enfin, je caricature, mais ça reprend ce que tu dis, à savoir que l'enjeu est faible, ou en tout cas, il est sportif.
C'est-à-dire que justement...
C'est la mort sociale.
C'est-à-dire que, exactement, c'est pour ça qu'on a construit un peu un enjeu en négatif, mais on ne l'a pas vraiment présent au scénario. C'est un des problèmes, on va le voir. C'est que son supérieur lui dit « t'as intérêt à être bon, parce que sinon, voilà, je vais te saquer. Parce que tu as fait trop de bêtises, donc si tu ne ramènes pas la coupe, il va y avoir des problèmes. » Mais on oublie vraiment tout de suite cette menace, parce que on voit bien que c'est son chef aboie, mais que voilà, c'est pas forcément, ça sera peut-être pas suivi des faits. Donc on se retrouve en fait avec une structure où on a un personnage qui veut juste être le meilleur. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose du coup qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un film de sport. Ça va être le mélange d'un film de sport et d'un genre qui est beaucoup plus intimiste, qui est le drama. Puisque à partir de cet instant, nous allons montrer un Maverick qui est absolument incapable d'obéir aux ordres, qui a tellement de choses à se prouver qu'il met en danger tout le monde. Et fondamentalement, la structure de Top Gun va être un drama. En fait, c'est un drama avec des avions de chasse qui coûtent des millions de dollars. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et improbable dans ce film. Je tiens à dire que ce film n'a quasiment rien coûté. Il n'a coûté que 15 millions de dollars, car c'est un film, comme dans pas mal de films à Hollywood, c'est un film qui est, comment dirais-je, qui a été...
porté par l'armée en termes de financement.
Voilà. Le Pentagone a financé ce film, parce qu'en réalité, ils n'ont fait payer à la production que le kérosène. Donc ce film a coûté 15 millions de dollars, c'est absolument rien, comparé aux bénéfices de ce film. Donc c'est assez improbable, parce qu'en gros, ils ont des avions de chasse, un porte-avions, des pilotes à disposition. Ça n'a jamais été filmé avant, et on se dit, on va faire un drama sur un pilote, parce qu'on est en temps de guerre froide, etc. C'est intéressant parce que c'est la conjonction de plusieurs intérêts, notamment, on est sous Reagan, il y a une volonté politique de refaire, de remettre un peu de patriotisme et de communiquer là-dessus. On veut aussi dire aux Américains, on est en temps de paix, mais on est en guerre, c'est-à-dire ne relâchez pas la pression. Et voilà, et on va avoir une structure de drama, on va la voir ensemble, qui est quand même assez improbable, voilà, pour le déclencheur.
Et ça permettra à l'ennemi de recruter.
Effectivement, ce film a, en plus de faire énormément de cash, a été un énorme levier. La Navy, paraît-il, ne s'attendait pas à ce succès, et ils ont recruté mais massivement à l'issue de ce film.
Alors, on aborde la tâche.
Alors, la tâche est intéressante. Qu'est-ce qu'on voit dans le film annonce? On le voit principalement frimer, et s'opposer à Iceman. Donc c'est le pilote qui a le plus de sang-froid. D'ailleurs, vous voyez, c'est pratique de caractériser avec des noms de code, puisque les noms de code sont donnés par l'armée pour faire des blagues et aussi pour
Maverick
coller.
Maverick et Iceman, tout est dit.
Voilà, en termes d'onomastique. Donc l'onomastique, je vous rappelle, c'est l'art de nommer les personnages, on est bon. Donc Iceman, c'est un pilote qui, en fait, fondamentalement, c'est le vrai gentil du film, parce que quand on regarde, il est effectivement une tête à claque, Val Kilmer. Il a trop de dents, j'ai envie de dire, il y a un problème, il sourit.
Ça raille le parquet, mais il fait le boulot, quoi.
Et non seulement il fait le boulot, mais il passe son temps à dire à Maverick, tu es dangereux, tu ne respectes pas les règles, et tu ne dois pas abandonner tes équipiers, parce que évidemment, à partir du moment où on rentre dans le film, à Top Gun, lui, là, on découvre que Maverick a des choses à se prouver. Donc, en réalité, sa caractérisation est assez simple, mais c'est plutôt intéressant, on vient exploiter l'arène. Son père était un pilote hors pair et il est mort dans une situation un peu secret défense. Et donc il est mort et Maverick ne sait pas dans quelles conditions, mais on raconte qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Donc en fait, Maverick est là pour laver l'honneur de son père et il poursuit une sorte de fantôme et donc il est tellement... avec une volonté de... Il est tellement sur objectif, il veut tellement performer, il veut tellement faire des performances qu'il est dangereux. Par exemple, on le voit s'entraîner et ne pas couvrir son coéquipier pour aller faire autre chose. On le voit aussi parce qu'il veut absolument éliminer à l'entraînement l'instructeur. On le voit descendre sous le plancher qui a été donné par les règles. Donc, il y a une sorte de plancher, je dirais une altitude à laquelle les exercices de combat se font. Et puis, l'instructeur en petit malin va aller atteindre ce plancher pour essayer d'être en sécurité. Et lui, il va descendre plus bas pour essayer de l'atteindre en toute illégalité. Donc, en fait, fondamentalement, la tâche de ce film, c'est une succession d'entraînements. Ils vont s'entraîner, donc c'est assez. D'ailleurs, c'est assez poussif. Hein, c'est-à-dire que systématiquement, donc, il y a un personnage de mentor qui est leur instructeur qui a son bras droit, qui lui pilote plus souvent, et qui vient égrener comme ça. Alors, c'est la 4e, 10e, 39e mission où ils ne font que des combats, mais pour de faux. Avec donc notamment Val Kilmer qui est super bon là-dedans. Et on voit successivement. Dans ses missions, Maverick faire des bêtises et au point que évidemment en milieu de film à peu près un peu plus tard il va malheureusement être victime d'un problème technique. Il va rentrer dans le souffle d'Iceman, donc son avion est déstabilisé par le souffle de l'aéronef d'Iceman. Il est dans sa traînée parce qu'il n'arrive pas à travailler en équipe. Et il perd le contrôle de son avion et l'issue est fatale.
Son copilote
Goose, ouais. En fait, s'éjecte. Donc la scène, en fait, si vous voulez, la tâche, c'est avant tout des valeurs de production. On voit des avions très souvent dans des situations. C'est très très bien filmé par Tony Scott, donc ça c'est vraiment assez agréable. Et là, on a une scène assez incroyable où en fait, son avion part comme une pierre parce que ses deux réacteurs s'éteignent et en fait, ces avions de chasse-là, pas de réacteur, ça plane pas. Hein. Ça tombe comme une pierre. Donc lui, il est collé à la vitre et puis d'un coup, boum, son coéquipier arrive à les éjecter. Malheureusement, eh bien, il se prend la verrière, ouais. Et il est tué sur le coup. Et voilà. Et donc là, on est vraiment dans un drama parce que à partir de ce moment-là, c'est la déchéance. Maverick a des crises d'angoisse lui aussi et il est plus capable de piloter. Et donc on s'aperçoit que la tâche fondamentalement, elle est très passive. Il y a pas grand-chose. C'est l'histoire en fait d'un personnage qui est un peu imbu de lui-même, qui met en danger tout le monde sans respecter les règles et qui doit apprendre à respecter les règles et qui va être confronté au bout d'un moment au décès de son coéquipier qui est en fait la faute de personne. C'est-à-dire que il est reconnu comme étant... Là, il n'a fait aucune erreur. Donc c'est intéressant le niveau de lecture de ce film parce que en gros, là, il a fait... Quand on fait... on ne respecte pas les règles, on peut faire des belles choses. Et puis en même temps, là, il respecte les règles, il n'a rien fait de particulier, mais il y a un accident, c'est comme ça. Il n'arrive pas à le supporter. Et voilà. Et donc, bon, il faut rajouter à cette tâche, comme tu disais tout à l'heure, de la drague. Et il essaye de séduire cette civile qui fait partie du renseignement, en fait, comme souvent le renseignement débriefe les pilotes, et il va la séduire. Ça a été rajouté, en fait, après, ça manquait un petit peu de sex appeal, et donc il y a des scènes même qui ont été retournées à la demande des producteurs pour ajouter du sexe et tout, parce que c'était un peu trop.
Est-ce que c'est peut-être pas aussi une manière de renforcer l'identification au personnage pour éviter de trop le dévaloriser, parce qu'on a une caractéristique quand même qui est propre au drama qu'on voit là, c'est qu'il y a un objectif conscient du personnage. Et nous, on est en désir d'un objectif qui n'est pas forcément exactement le même pour le bien du personnage.
C'est ça. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est un mauvais drama. Et c'est pour ça que je pense que le scénario n'est pas très bon. En fait, en réalité, quand on regarde bien.
Mais il fonctionne.
C'est-à-dire que le film fonctionne, mais.
C'est ses valeurs de production qui le ramassent.
C'est exactement. Ouais. C'est exactement. C'est-à-dire que. Ce qui est. Effectivement, dans un drama, ce qu'on veut, c'est simplement comprendre le personnage mieux que lui-même. Donc nous, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre que Maverick, comme son nom l'indique, c'est un chien fou, il faut qu'il se calme. Mais c'est très mal... Quand vous regardez les scènes de drama, c'est très mal fait. C'est-à-dire, la musique est vraiment cheesy. Donc il y a trois...
C'est une ambiance années 80.
Hein. Ah mais ouais, non, mais c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup Tony Scott. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour son travail. Mais là, il faut dire que donc il y a une surexploitation de à la fois du titre un peu phare
et oui, je crois que t'es pathos dégoulinant.
Ah voilà, voilà. Et donc bon bah en gros c'est un mauvais drama parce que les personnages et lui-même a conscience de ce qui de c'est-à-dire que dès le début les personnages lui disent non mais tu cherches à te prouver des choses, tu luttes contre ton père et l'image de ton père. Enfin, les choses sont dites de vraiment noir sur blanc. Donc ça le rend vraiment détestable. Et en fait, effectivement, tu as raison. C'est le fait qu'il soit un bon dragueur, parce que d'être sur objectif comme ça, et il y a un parallèle entre la drague et puis on va dire la.
C'est vrai, faut finir premier. Quoi.
Voilà, faut finir premier. Donc ça le rend effectivement. Il est assez. Ça a été un personnage assez comment dirais-je iconique. Les jeunes ont voulu être comme Maverick, mais si on regarde un petit peu avec plus de finesse, le personnage est un peu est pas très attachant.
Il est pas ultra mature. Hein,
il est pas très mature, il est pas voilà. Bon, effectivement, on a plein de scènes de pilotage, mais voilà. Donc on va dire que le déclencheur, c'est il a l'occasion de rentrer dans Top Gun pour décrocher la coupe, mais il rentre pour de mauvaises raisons. C'est parce que le meilleur devant lui a abandonné. Deux. Il est confronté fondamentalement, comme dans un bon drama, à sa propre incapacité à ici respecter les règles et à, vouloir absolument laver l'honneur de son père. Voilà, donc ça le rend en fait détesté d'une partie des pilotes et en tout cas. Voilà, jusqu'au moment où il est confronté à quelque chose qu'il n'arrive pas à accepter, qui est qu'il ne peut pas tout contrôler et que son copilote meurt et ça le détruit. Voilà, donc on est sur le 2 d'un drama.
Et ce qui nous achemine vers le climax.
Ah, le climax. Alors le climax, ça c'est compliqué. On a vendu un film d'action. Il n'y a plus de MIG, il n'y a plus de méchants. On est dans une situation de guerre froide. On est sur un film de sport avec une coupe qui finalement n'a pas... Il n'y a pas d'enjeu à cette histoire.
Elle perd de sa saveur en plus.
Oui, parce que. Et alors, qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre? On ne comprend pas vraiment. Donc, bon. Et donc, le climax est une solution pour, si vous voulez, essayer d'emballer tout ça, quoi. Et donc, le climax est le suivant. Il a suffisamment eu d'heures de vol pour avoir son diplôme de Top Gun sans être le premier. Parce que, donc, suite à l'accident, il est complètement dans les choux, il veut abandonner, etc. Il finit quand même par aller voir son mentor qui lui lance une info secret défense. Il s'avère que son mentor a volé avec son père et il lui dit « Non, mais j'ai pas le droit de te le dire, mais en gros, ton père a été héroïque et il aurait pu rentrer à la base, il a resté pour sauver d'autres gens et c'est un héros, mais t'as pas le droit de le dire. » Bien, et donc il a le choix à ce moment-là d'abandonner ou de revenir, mais de revenir comme un second parce qu'il peut revenir je dirais à la remise des diplômes, mais il sera second. Et c'est ce qu'il fait. Donc, on a la résolution du drama. Et vous voyez que c'est une mauvaise résolution. Parce qu'en gros, il n'a rien résolu du tout. Il a une réponse à sa question. Oui, ton père était un...
Il y a une vraie artificialité, quand même.
Oui, voilà. Et je veux dire... et alors, qu'est-ce qui se passe si son père... Qu'est-ce qui se serait passé si son père n'avait pas été un héros, finalement? Il n'aurait pas du tout résolu son problème. C'est-à-dire qu'en fait, le véritable problème du personnage, c'est qu'il fallait qu'il comprenne qu'il n'est pas son père. Et qu'il doit embrasser son père avec ses forces et ses faiblesses et être fier de ses origines, quelles qu'elles soient. Mais là, non, c'est parce que c'est un héros qui s'en sort. Donc, bon, déjà, voilà.
Presque externe.
C'est ça. Et donc, le climax se termine sur le drama. En tout cas, il accepte ça. Et puis, on vient immédiatement remballer sur un climax qui sera quand même plus satisfaisant du nouveau, au niveau de l'action, qui est que immédiatement ils reprennent mission, il revient sur son porte-avions du départ, et là, c'est ça, c'est magique, la situation. Donc, je vous rappelle, un climax, c'est un nouveau déclencheur, fondamentalement. Ici, il y a un problème qui est très simple. Il y a eu un crash. Alors, je ne sais plus si c'est un crash aérien ou une avarie de bateau, mais en tout cas, il y a eu une mission de sauvetage qui a été faite en territoire ennemi. Parce que, soi-disant, les gens à rescapés, les rescapés ont dérivé dans les flots. Donc, en fait, finalement, on a des Américains qui sont en pur territoire russe. Ils n'ont absolument pas le droit d'être là. Donc, évidemment, les Russes envoient des MiG. Et on a donc Maverick et Iceman qui sont sur le même porte-avions, qui doivent sécuriser. Iceman est le numéro 1 Top Gun, il est envoyé en premier, et il est rapidement débordé, et on envoie Maverick pour l'aider, et on a un climax, je dirais, assez décevant, où il a un problème à résoudre, qui est qu'il a sa crise d'angoisse, et puis finalement, donc il s'apprête à abandonner le combat face à cette crise d'angoisse, et puis finalement il revient, il n'y a absolument rien qui nous laisse comprendre pourquoi il arrive à surmonter cette peur, comment il arrive à surmonter cette peur. Et puis là, il vole, effectivement, il y a des scènes superbes où il arrive à déglinguer en fait 5 MiG tout seul, quasiment, et à aider Iceman et à faire une belle équipe. Et ils se posent sur le porte-avions tous les deux, et il y a cette réplique.
L'alias final.
Voilà, l'alias final, c'est avec la réplique culte. « Tu peux être mon copilote, je te prends comme copilote. » Donc, on a Iceman qui l'adoube, en fait. Ouais. Et voilà. Et puis, il y a une fin qui est qu'on lui propose, du coup, comme il a fait une action de bravoure, il peut choisir où il veut être affecté, et il choisit d'être instructeur à Top Gun. Et ça nous fera la transition pour le Top Gun 2 qui va sortir, puisque je crois qu'il va être instructeur.
Ça commence comme ça. Ouais. En tout cas, il est pas en Hong Kong.
Voilà.
Tout va bien. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde les notes qu'a eu le film, alors ça, c'est purement indicatif, hein, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le reflet. Il se fait un peu sabrer sur le ciné. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a un goût très années 80 qui quand même lui colle à la peau, hein, faut dire ce qu'il est. Il est plutôt bien noté sur d'autres agrégateurs de critiques, alors, pour ce que ça vaut. Mais moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que on serait dans un drama, ce qui pourrait sembler très banal, et en fait, ce qui fait le rehausseur de goût du film, c'est que c'est un high concept. Point de vue de l'arène,
ouais.
C'est une arène qu'on n'avait jamais vue à l'époque.
C'est-à-dire que c'est l'intérêt du film, personne n'avait pu filmer ça avant, les comédiens étaient véritablement dans les cockpits, ça a été filmé en grande partie aussi en vol, quasiment tous les rushs ont été exploités, donc ils ont vraiment surexploité ces avions dans tous les sens, au point que après le succès commercial de ce film, évidemment les studios ont voulu immédiatement faire un 2, qui étaient tout à fait dans leur droit. Pourquoi ils n'ont pas fait deux? Vous pensez bien que c'est pas pour l'amour de l'art. C'est parce que ils se sont rendu compte que tous les rushs avaient été exploités. Il n'y avait pas un seul rush qui n'avait pas été exploité, donc ils n'avaient pas pu continuer. Alors effectivement, ça a été un succès. Pourquoi il y a une différence de notes entre les Français? Je pense que, bon, déjà, sincèrement, c'est mon avis. Ça ne représente, enfin, là, je sors du travail de script doctor. Je pense que c'est un, enfin, avec tout le respect que je dois au scénariste, mais c'est pas un très bon scénario en tant que tel. Et donc, si on regarde l'histoire, vraiment à proprement parler, c'est du mauvais drama avec des avions de chasse et une réalisation hallucinante. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la preuve que des valeurs de production peuvent vraiment transcender un scénar. C'est-à-dire que
ça sublime le scénar.
Voilà, c'est vraiment impressionnant parce que c'est Et pourtant, Tony Scott, donc il a réalisé beaucoup de très jolies scènes d'action, mais toutes les scènes drama, c'est vraiment, je vous invite, c'est dommage, on pourra vous en mettre un petit extrait, mais la scène où donc son copilote Goose lui dit « tu déconnes quand même, fais attention, etc. » et l'autre lui dit « ouais, j'ai que toi comme famille », enfin, ces frissons de la honte, c'est vraiment... il n'y avait pas beaucoup de matière de drama en fait à défendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a une structure. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série française Extrême Limite, où en gros, c'était une série, vous savez, toujours plus loin, toujours plus vite. C'était une école de sport extrême.
Côte d'Azur.
Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, La seule chose qu'il n'y avait pas dans Extrême Limite, c'était les valeurs de prod. C'est-à-dire, bah ouais, c'est un avion de chasse, c'est pas un, un VTT.
Et c'est pas Tony Scott qui filme.
Ouais, voilà. Bah, après, c'est autre chose, on peut pas comparer. Mais je veux dire, sinon, c'est strictement pareil. C'est-à-dire, c'est voilà.
Alors, du coup, ça pose un peu quand même une question pour finir. Bah, c'est comme Top Gun 2, lui, n'aura pas l'avantage de la nouveauté, en tout cas, du point de vue de la reine. Ce sera vraisemblablement pas un high concept, enfin, même si on l'a pas vu. Mais, donc, quid, est-ce que ça va marcher ou pas, quoi?
C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que avec les effets spéciaux et les possibilités aujourd'hui, on va dire que les valeurs de production coûtent cher aujourd'hui. Vous voyez, pour le billet d'entrée pour avoir des valeurs de production, là, il suffisait juste de payer du kérosène auprès du Pentagone, et puis c'était. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, pour vraiment impressionner les spectateurs. Il faut aller sur du Mandalorian, quoi. Enfin, où c'est des
un budget faramineux.
Voilà, c'est. Donc là, je pense que c'est le. Ils vont se rabattre sur le scénar, hein. À mon avis, hein. Parce qu'évidemment, Tom Cruise, ça a quand même lancé la carrière de tous les comédiens dedans, hein.
C'est vrai.
Enfin, quel est son prénom à cette jeune femme? C'est Kelly? C'est McGillis, c'est
ouais,
ça?
Kelly McGillis.
C'est Kelly.
Ouais.
Elle était déjà connue pour Witness, mais ça a lancé quand même pas mal de monde. Val Kilmer, Tom Cruise, et voilà. Aujourd'hui, Tom Cruise, évidemment, est en mesure de choisir ses scénars et il est très, très attaché au scénario, on le sait. Donc je pense quand même, j'espère que les scénarios le scénario sera au niveau pour le 2. Ça sera intéressant de savoir comment on fait ça. Enfin, gardez en tête que le film de sport est une structure de film d'action cachée. Vous pensez Rocky, Karate Kid, mais vous pensez aussi Top Gun.
Ouais, c'est vrai. Et ben c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires. On y répondra avec plaisir. Et puis si vous souhaitez en savoir un peu plus sur iConcept, vous pouvez également nous rejoindre sur le site de iConcept, i-concept.fr.
Et merci effectivement à tous, et encore une fois désolé pour les connaisseurs et les pilotes de chasse, vous voulez évidemment bien excuser nos approximations, et on se place évidemment du point de vue du scénario, toutes les erreurs qu'on aurait pu commettre, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires.
Merci à tous, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Tu vas voir ça. Attends, gauche, dans le 6 heures. Merde, c'est Chester.
Youpi, Maverick a shooté, t'es dégagé, petit.
Merde.